Bonjour. Une soirée au théâtre perturbée pour Emmanuel Macron à Paris. Des manifestants ont tenté de s'introduire dans la salle de spectacle avant d'être refoulés. Le président de la République, mis en sécurité quelques instants, a pu revenir à sa place et quitter les lieux sous escorte renforcée. Dans la nuit, un début d'incendie provisoire, possiblement volontaire, a visé la brasserie La Rotonde, où le même Emmanuel Macron avait fêté sa victoire du premier tour. Au 45e jour du conflit sur les retraites, la tension sociale franchit un nouveau palier. Au même moment, la mobilisation contre la réforme du bac se concrétise à Clermont-Ferrand. De premières épreuves ont dû être annulées ce matin dans un lycée de la ville sous la pression des grévistes. Dans ce journal également, une caravane de migrants vers les États-Unis bloquée au Mexique. Le dossier Wallenberg, relancé par les Suédois 75 ans après la disparition du diplomate à Budapest en 45. La Suède demande son concours à la Russie pour établir la vérité. En sport, l'Open d'Australie menacé par les fumées. La direction du tournoi promet une surveillance permanente de la qualité de l'air. Le dernier livre de Stephen King, The Outsider, adapté en série télé. C'est le conseil week-end d'Alexandra Hakoun et puis la météo, ciel maussade dans l'est et le quart sud-ouest. Les températures continuent à baisser.
France Inter.
Qui en veut à la Rotonde, la célèbre brasserie du 6e arrondissement de Paris, victime d'un début d'incendie pendant la nuit, aurait été volontairement ciblée. C'est en tout cas l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs. Plusieurs individus ont été aperçus devant l'établissement où des traces d'hydrocarbures ont été relevées. Serge Tafanel, le co-gérant de la brasserie, au micro de Xavier Grumeau.
Moi, j'ai été réveillé à 5h du matin par notre alarme de télésurveillance, vidéo télésurveillance. Il y a eu une intrusion sur le côté là-bas et je pense qu'ils ont mis le feu. Donc la salle est... Bon, il y a des fils, beaucoup de choses qui ont brûlé. Donc on est obligé de fermer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On soupçonne que ce soit d'ordre criminel. Ah, ben, il y a plusieurs jours, plusieurs semaines de fermeture. 45 personnes qui vont se retrouver au chômage technique. C'est un acte de lâcheté. Parce que ça s'est passé la nuit, il n'y a personne, voilà, on ne comprend pas.
Des rumeurs annoncent que le président de la République, Emmanuel Macron, était présent ici hier soir.
Non, c'est faux.
Vous confirmez que c'est faux?
Oui, non, c'est faux. Le président n'était pas là hier soir.
Ouais, il n'était pas à la Rotonde, Emmanuel Macron, mais on se souvient que c'est ici qu'il avait célébré son score du premier tour à la présidentielle au printemps 2017. Ce même Emmanuel Macron, dont la sortie au Théâtre des Bouffes du Nord a été perturbée dans la soirée. Quelques dizaines de manifestants ont essayé de s'introduire dans la salle, dont le président a dû être mis en sécurité. Sébastien Sabiron, les manifestants avaient été avertis de sa présence, semble-t-il, par le tweet d'un spectateur.
Pas n'importe quel spectateur. Taha Bouaf, c'est un journaliste militant très suivi sur Twitter, auteur notamment des images d'Alexandre Benalla violentant des manifestants le 1er mai 2018. Hier soir, il assiste à cette pièce, La Mouche, du théâtre contemporain, assis trois rangs derrière Emmanuel Macron. Il le filme de dos avant le début du spectacle et tweete les images, ajoutant, je cite, « Des militants sont quelque part dans le coin et appellent tout le monde à répliquer. La soirée risque d'être mouvementée et c'est effectivement ce qui se produit. » Une trentaine de manifestants tentent de s'introduire dans le théâtre face à des forces de l'ordre assez peu nombreuses. À l'intérieur, le président est mis en sécurité quelques minutes selon l'Élysée, une tentative d'intrusion qui échoue. Le président rejoint sa place et assiste à la fin de la représentation. Pendant ce temps-là, à l'extérieur, des CRS sont appelés en renfort. Bref tension au moment où le chef de l'État et son épouse quittent le théâtre en voiture vers 22h sous les sifflets. Quant au journaliste Taha Bouaf, s'il est placé en garde à vue pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations, sauf qu'il n'est pas le premier à avoir signalé la présence d'Emmanuel Macron. 12 minutes avant le sien, un autre tweet du comité de grève du 12e arrondissement de Paris appelait clairement à se rendre devant le théâtre des Bouffes du Nord pour accueillir le chef de l'État, je cite, comme il se doit, un tweet supprimé depuis.
Les réactions n'ont pas manqué, bien sûr, depuis hier soir. La secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher, dénonce une approche antidémocratique de la politique. Sa collègue de l'écologie, Emmanuel Wargon, demande qu'on retrouve le respect normal de base qui permette à la démocratie de s'exercer. Pour Marine Le Pen, en revanche, ces agissements qui doivent être condamnés, car ils sont inquiétants, dit-elle. En revanche, la présidente du RN, du Rassemblement National, ajoute que le gouvernement contribue par son comportement à cette montée en tension. En tout cas, cet épisode s'ajoute à la liste liste déjà longue des coups de tension enregistrés dans la semaine, le blocage des entrées du Louvre, l'intrusion dans les locaux de la CFDT à Paris. Ce matin, ce sont les premières épreuves du bac qui ont été annulées dans un lycée de Clermont-Ferrand où des manifestants sont entrés dans l'établissement. Une mobilisation dont se félicite David Alliguin, professeur de sciences économiques, militant CGT de l'éducation nationale, hostile à la réforme du bac. Il est au micro de Léo Corcos.
À la fois, on a le recteur qui, hier, dans la montagne, dit que tout est prêt, que tout se passe bien, si ce n'est une minorité. Là, on voit bien qu'on n'a pas la minorité. Il y a une majorité de collègues qui surveillaient, qui étaient en grève. Beaucoup de collègues d'autres établissements qui sont venus un samedi matin à partir de 7h30. On est plus de 90%, 95% des collègues à être contre cette réforme. Et c'est eux qui ont les cartes en main pour annuler totalement toutes ces épreuves et revenir à quelque chose de raisonnable, c'est-à-dire un bac national, des moyens budgétaires pour faire correctement notre métier, des moyens pour que les élèves soient suffisamment peu nombreux dans les classes pour qu'ils puissent réellement apprendre. Mais tout ça, voilà, le ministre ne veut pas l'entendre. Il faut continuer ce genre d'action, à la fois faire en sorte de perturber au maximum ces épreuves-là. Il va de soi que c'est seul le rapport de force qui pourra nous permettre d'aller face à Blanquer et de faire aboutir nos revendications. On est obligé d'agir face à l'imminence de la catastrophe.
Et une nouvelle mobilisation pourrait donc empêcher les épreuves d'histoire géographique prévue mercredi. Alors même s'il ne faut pas tout mélanger, réforme des retraites, réforme du bac, il semble que la contestation ait franchi un nouveau palier dans son mode de protestation. Après 45 jours de grève, des militants se sentent obligés de trouver autre chose, notamment ces violences symboliques, seul moyen désormais de leur point de vue d'être entendu, comme l'expliquait ce matin à Jules Dequis sur France Info Stéphane Sirot, historien spécialiste des mouvements sociaux, professeur d'histoire politique et sociale à l'université de Cergy-Pontoise.
C'est un des dangers de la gestion des tensions sociales par le gouvernement, parce qu'en effet, à ne pas vouloir suffisamment tôt et suffisamment fort répondre aux demandes et aux contestations sociales, ça envoie le message qu'en effet, sans des formes de transgression, y compris peut-être par l'usage de la violence, il paraît aujourd'hui impossible d'obtenir des concessions. Et d'ailleurs, c'est un retour d'expérience aussi, parce qu'au fond, depuis le fameux mouvement de 1995 dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, aucune victoire ou quasiment n'a été remportée par des conflits sociaux routinisés, ritualisés. Et effectivement, il y a eu cette rupture des gilets jaunes qui a fait la démonstration qu'un pouvoir politique peut avoir peur, mais qu'il peut avoir peur aujourd'hui, non pas parce qu'on a montré qu'on était nombreux, parce qu'on est dans la grève, mais parce que on a utilisé des moyens qui normalement ne se font pas, mais qui du coup ne se faisant pas font vaciller le pouvoir sur ses bases.
Dans le même ordre d'idées, à Toulouse, ce matin, 2600 foyers sont privés d'électricité dans le quartier de la Gare. Information de France Bleu Occitanie. Enedis dénonce un acte de malveillance. L'électricité ayant été coupée sur un transformateur de 20 000 volts. Enedis qui annonce son intention de déposer plainte. Et puis dans les transports, rien de changé. Le trafic SNCF reste très modérément perturbé, quasi normal pour les TGV. C'est plus difficile à la RATP à Paris avec 7 lignes de métro sur 16 qui fonctionnent normalement.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Ils sont partis d'Amérique centrale, direction les États-Unis. 3000 migrants constitués en convoi sont arrivés à la frontière du Mexique, où leur voyage pourrait maintenant se compliquer. Le gouvernement mexicain s'est engagé vis-à-vis des États-Unis à ne pas laisser passer les candidats à l'émigration. Raison pour laquelle le président Andrés Manuel López Obrador les a prévenus. Ils pourront entrer au Mexique pour y travailler s'ils le veulent, mais n'iront pas plus loin. Emmanuel Stills à Mexico.
La résistance du gouvernement mexicain viendra-t-elle à bout de la détermination des migrants en marge vers les États-Unis? C'est une des questions soulevées par cette nouvelle caravane partie il y a 3 jours du Honduras et parvenue aux portes du Mexique. D'emblée, le président Andrés Manuel López Obrador s'est engagé à offrir 4000 permis de travail aux migrants d'Amérique centrale, à condition qu'ils restent dans le sud du Mexique. À ceux qui veulent traverser pour filer vers les États-Unis, les portes sont fermées. « Nous ne sommes pas un pays de transit », répètent les responsables mexicains depuis le départ de ce convoi de migrants. Pour le gouvernement de gauche de López Obrador, c'est une manière de jouer la carte humanitaire en accueillant les personnes tout en freinant la caravane. L'accord passé avec les États-Unis l'y oblige. Le Mexique doit arrêter les migrants avant qu'ils ne parviennent à la frontière nord, où des taxes douanières s'abattront comme un couperet sur le pays. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
On l'appelait le Schindler suédois. Il a lui aussi sauvé des milliers de juifs pendant la guerre. C'était à Budapest. Raoul Wallenberg était un diplomate suédois arrêté par les soviétiques le 17 janvier 45. Il y a juste 75 ans donc. Personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. Aujourd'hui, la Suède, qui a ouvert de nouvelles archives, adresse une demande officielle aux autorités russes pour pouvoir connaître enfin la vérité. À Stockholm, Frédéric Four.
Pour Casper Andersson, du ministère suédois des Affaires étrangères, la Suède ne cache rien sur l'affaire Raoul Wallenberg.
On a rendu public 40 000 pages de documents et on a fait une demande officielle d'assistance à Moscou. Cette question est très importante pour le gouvernement suédois.
Les soviétiques ont juré pendant 12 ans qu'ils ne l'avaient jamais détenu. Puis ils ont affirmé qu'il était mort en 1947 dans une prison de Moscou. Mais dans quelles circonstances? Et si Wallenberg était resté en vie bien plus longtemps? Selon sa nièce, Louise von Dardel, ces incertitudes sont aussi la conséquence de l'inertie suédoise.
Mon oncle a donc décidé de partir dans l'endroit le plus dangereux pour la mission la plus dangereuse. Et quand il n'est pas revenu, les Suédois n'ont rien fait. Et donc maintenant, enfin, il y a la Suède qui bouge.
La Suède, pendant la guerre froide, ne voulait pas froisser son puissant voisin soviétique. Aujourd'hui, cependant, de nombreuses institutions continuent de célébrer Raoul Wallenberg. C'est le cas de la Raoul Wallenberg Academy, créée par sa sœur, qui organise un rassemblement tous les 17 janvier. Cécilia Holberg est une de ses descendantes.
On fait ça depuis des années pour maintenir son héritage vivant et pour qu'il soit une source d'inspiration pour d'autres.
Vendredi, des bougies ont été allumées sur la place Raoul Wallenberg à Stockholm en souvenir du héros suédois. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
En sport, en tennis, des joueurs qui pourraient manquer d'air en Australie alors que les incendies continuent à ravager le sud-est du pays. Certains s'inquiètent des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir jouer dès lundi en ouverture de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. Certains matchs de qualification ont déjà été difficiles cette semaine. Une Slovène notamment, atteinte de quinte de toux et qui a dû abandonner sa partie. La direction du tournoi promet une surveillance permanente de la qualité de l'air à Melbourne et elle promet que les matchs seront arrêtés si besoin. À la grande satisfaction du Français Jérémy Chardy.
Ils ont mis un barème en place comme pour la chaleur. Dès que ça arrivera à 200 de pollution, ils arrêteront automatiquement tous les matchs. Et entre 100 et 200, ce serait les docteurs qui décideront. Et je pense qu'il y a aussi en fonction de la température. Mais en tout cas, ils ont dit qu'ils ne prendraient aucun risque et qu'ils feraient tout pour respecter le jeu et les conditions physiques des joueurs. Ils nous ont dit aussi que les températures pour les deux prochaines semaines et la qualité d'air devraient être bonnes, donc ça va bien se passer et qu'il n'y aura plus de problèmes.
Jérémy Chardy au micro de Fabrice Abgral. En bref, 4 personnes blessées, dont 2 grièvement ce matin par l'explosion d'une habitation à Limoges. Explosion provoquée par une fuite de gaz. Un périmètre de sécurité a été mis en place. C'est le champion absolu des adaptations. L'écrivain dont un nombre incalculable d'œuvres ont été adaptées pour le cinéma ou la télévision. Stephen King revient à nouveau sur OCS sous la forme d'une mini-série tirée cette fois de son dernier livre, The Outsider. 10 épisodes d'une enquête où l'étrange le dispute à l'angoisse, forcément, c'est du Stephen King, un polar captivant qu'a vu et apprécié Alexandra Hakoun.
Une balade dans un parc qui tourne au macabre. Le corps d'un enfant sauvagement assassiné. Des indices clairs qui pointent du doigt un prof d'anglais, coach de l'équipe de baseball junior du coin. Problème, le jour du meurtre, le suspect était à plus de 100 km de là pour un colloque. On le sait, on a même les bandes vidéo de son hôtel.
Is that Terry Maitland? 70 miles away. The same day, the same time as Frankie Peterson was murdered.
Alors l'inspecteur Ralph Anderson n'y comprend plus rien. Un homme peut-il être à 2 endroits au même moment? Dans la vraie vie, certainement pas, mais chez Stephen King, tout devient possible, même le surnaturel. Du fantastique que Richard Price, à qui on doit déjà les excellentes séries de Wire et de Douce, s'amuse à distiller par petites touches, après nous avoir installés dans un climat poisseux qui rappelle furieusement True Detective. Dans cet état de Géorgie où le soleil ne semble jamais se lever, on s'enfonce doucement dans ce polar glaçant. Aussi sombre que les tréfonds de l'âme humaine.
Alexandra Akoun, autre conseil culture pour ce week-end en Normandie, le festival Le Goût des Autres, c'est au Havre, festival de création où s'entrecroisent le livre et la scène, au programme Marie Dariussec, Nina Bouraoui, Sylvain Prudhomme, lauréat du prix Femina 2019, Agnès de Sarthe, mais aussi Abdelmalik, Alex Baupin. Le Havre donc, tout ce week-end, éclectisme et création. Et puis au cinéma, bien sûr, le film incontournable de la semaine, c'est 1917 de Sam Mendes. On y suit deux jeunes soldats britanniques pendant 2 heures au cœur d'un no man's land du nord de la France. Film tourné en un plan séquence, performance technique qui a déjà valu à Sam Mendes les Golden Globes du meilleur film dramatique et de meilleur réalisateur, et qu'il a lancé dans la course aux Oscars avec 10 nominations. ...13h15, le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Jean-Michel Golinski.
Maintien cet après-midi d'une certaine dose de grisaille entre les frontières de l'Est, la Bourgogne et les Ardennes. Un ciel maussade va survoler le quart sud-ouest, surtout le sud de la Garonne, avec des flocons à partir de 1000 mètres. Ailleurs, temps sec, mais souvent surplombé d'un voile nuageux, il sera plus dense dans la moitié ouest. Demain, les régions pyrénéennes vont conserver des pluies faibles et des flocons à basse altitude. Ailleurs, les précipitations seront anecdotiques dans un ciel plutôt variable, mais avec un vent assez fort près de la Méditerranée et sensible ailleurs. Les températures, à force de baisser, vont finir par passer en dessous des normales ces prochains jours, avec déjà cet après-midi une perte de 2 degrés environ par rapport à hier. Idem pour la journée de demain. Et la nuit prochaine, les gelées sous-abri entre 0 et moins 2 degrés seront fréquentes en campagne.
Prochain rendez-vous sur l'antenne de France Inter. Ce journal étant raccourci en raison d'une grève à Radio France. Prochain rendez-vous, le Flash Info à 14h avec Kevin Dufraîche. Bon après-midi.